Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que je vais consacrer à l'écrivain de Roussac, Louis Peignot, sous le titre « Louis Peignot, un passeur d'histoire et de culture ». Pour les textes, nous avons utilisé un article de Daniel Perron, « Louis Peignot, passeur culturel entre Berry et Limousin » et 5 ouvrages de Louis Peignot, « De la vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux, au pays des bruyères et des étangs, au relais de l'étang vert, Bramefan-sur-Couze et Bergère, éternelle bergère. »
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Voici donc un écrivain de notre région dont j'ai utilisé les textes, en particulier ceux de Bergère, éternelle bergère, des dizaines de fois, pour nourrir le contenu des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Il s'agit de Louis Peignot, né le 9 août 1895 dans le hameau de Chasseneuil, commune de Rancon, et décédé le 12 mai 1988 à l'âge de 92 ans donc, dans le village de Roussac. Instituteur, inspecteur de l'éducation nationale, chroniqueur de radio, historien, spécialiste de Georges Sand, romancier, il a publié une bonne dizaine d'ouvrages. C'est de cet homme qui fut tout cela, c'est de cet homme qui fut un passeur d'histoire et de culture, c'est de cet homme qui partagea sa vie entre la région de Roussac, Rancon, Saint-Symphorien-sur-Couze et celle de La Châtre dans le Berry. C'est donc de cet homme et en particulier de son activité d'écrivain dont je vais vous parler aujourd'hui.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Louis Peignot est donc né à Chasseneuil de Rancon en 1895. Son père décède en 1896, alors qu'il n'a donc que un an. Après de brillantes études primaires et secondaires, il rejoint l'école normale de Limoges en 1914 et se voit attribuer très vite un poste d'instituteur remplaçant à La Jonchère. Mais c'est la guerre. Et le voici donc bien vite aussi mobilisé et incorporé en 1915 au 78e régiment d'infanterie à Guéret. On le retrouve élève officier en région parisienne à Saint-Maur, puis il est affecté le 15 novembre 1916 à Écluse, au bord de la Somme, puis à Péronne, où il assistera au 25e combat victorieux du célèbre pilote Georges Guynemer. Fin 1917, il part sur le front de l'Italie. Et en juillet 1918, il est de retour dans la Marne. Il est alors blessé à Fleury-la-Rivière et revient en Limousin. Démobilisé, il épousera Léa Péricot, une institutrice comme lui, et sera nommé maître d'école à Saint-Sornin-le-Lac. Comme tous les hommes de sa génération, il sera profondément marqué par la boucherie de 1914-1918. Et en hommage à tous les morts des guerres, à tous les soldats du 19e et du début du 20e siècle, il publiera en 1968 le bal des conscrits.
J'ai reçu commandement de partir pour la guerre. Je ne me soucions point pourtant d'abandonner notre mère. Pourtant là ben fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant là ben fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, une sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis pendant jusqu'au derrière. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un piquet. et fallait se tenir vrai, aussi vrai qu'un piquin piquet.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Bien sûr, il va ouvrir son ouvrage par les conscrits de 1915, comme lui, les conscrits de la Couze. Mais l'ouvrage va embrasser une longue période de 1792, donc de Valmy, jusqu'en 1918. Nous découvrirons les volontaires de l'an 4. Et pour citer des exemples, en 1976, on compte 36 soldats pour la commune de Touron, qui comptabilise 465 habitants, 61 soldats sur les 640 habitants de Saint-Symphorien-sur-Couze. Nous découvrirons donc Valmy, mais aussi Iéna, les guerres espagnoles de Bonaparte ou la campagne de Russie, et nous découvrirons tout cela par la lorgnette de nos compatriotes conscrits. Nous irons encore à Sébastopol, comme nous vivrons aussi la campagne d'Algérie, et à chaque fois, nous découvrirons la liste impressionnante de jeunes conscrits de notre région, morts au champ d'honneur, qui est aussi un vrai champ d'horreur. Et puis, il y aura Sedan et bien d'autres guerres. Et nous bouclons la boucle avec le retour à la guerre de 14-18. Voici un court passage du roman de Louis Peignot. Le petit train de Limoges à Saint-Sulpice-les-Feuilles, qui avait amené tant de soldats en 1914 et au cours des permissions du front, ne les ramènera pas tous après le 11 novembre 1918. Sur les monuments de granit de nos communes, bien des noms sont gravés. Nos campagnes françaises fournirent à l'immense armée ses fantassins, comme dans les guerres du passé. Pour les paysans soldats, pas d'affectation spéciale qui aurait pu en préserver quelques-uns. Et dans cette guerre, comme jadis, c'est l'infanterie, cette piétaille, qui eut le plus à souffrir. À Saint-Symphorien, 31 noms sur le monument aux morts. À Comprignac, 98 noms. À Nantia, 86 noms. À Rancon, 73. À Saint-Pardoux, 55. À Roussac, 32 noms. À Touron, 28. Au Buy, 12 noms.
Si tu meurs, les oiseaux se tairont pour toujours. Si tu es froide, aucun soleil ne brûlera. Au matin, la joie de l'aurore ne lavera plus.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous venons d'écouter la chanson de Tessa, un poème de Jean Giraudoux, et peut-être même le seul poème de Jean Giraudoux, mis en musique par Maurice Jobert et interprété ici par Valérie Lagrange et Jean-Pierre Calfon. Tout ça pour en venir à l'ouvrage majeur de Louis Peignot, de la vallée de George Sand aux collines de Jean Giraudoux, un ouvrage publié en 1949. Il faut dire qu'en 1930, Louis Peignot avait passé et réussi l'examen d'inspecteur de l'éducation nationale, on disait à l'époque inspecteur primaire, qu'il exerce d'abord à Murat, en Corrèze, puis, à partir de 1931, à La Châtre, et cela jusqu'à sa retraite en 1958. S'il se concentre dans un premier temps sur ses fonctions de pédagogue, très vite, il va s'intéresser aussi à la culture historique, littéraire et artistique de la région de La Châtre. En 1944, il sera chroniqueur sur le poste de Radio Indre-Est, où il raconte les petites et grandes histoires du Berry dans les chroniques berrichonnes du mardi. Membre de l'Académie du Centre, il va s'intéresser à la fois à Jean Giraudoux, qui, bien que né à Bellac, fit ses études secondaires au lycée de Châteauroux, et à Georges Sand, à La Châtre et à Nohant. Cela le conduit donc à écrire cette promenade littéraire et artistique entre le Berry, où il travaille et réside, et sa basse marche natale. On y rencontrera certes Georges Sand et Jean Giraudoux, mais aussi Jean de La Fontaine, Maurice Rollina, les peintres de Crozant et bien d'autres encore. Il nous relatera aussi bien des événements. Je cite en vrac l'histoire du monastère de Grammont, la révolution en basse marche, l'histoire des nobles émigrés et en particulier celle du baron de Nantia ou de Duroy de Chaumaret de Bussière-Boffy, le fameux capitaine de la Méduse. L'histoire des maçons migrants, celle du loup en basse marche, mais aussi les travaux, les saisons et les jours en basse marche, les labours, les défrichements, les moissons, les batteuses, etc., etc.
Quand la bergère s'en va au champ, quand la bergère s'en va au champ, quand la bergère s'en va au champ, toujours filant, sa quenouillette à son son fuseau d'argent, son fuseau d'argent. Son bel amant en va la suivant, son bel amant en va la suivant, son bel amant va la suivant, toujours disant la belle ne marchait pas si fort, tardez un moment, tardez un moment. Oh Nelly, non, qui était dans le jardin, le cœur bien mourant, le cœur bien mourant.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pour ce qui me concerne, je considère que l'ouvrage le plus essentiel, le plus dense, le plus riche de Louis Peignot, c'est Bergère, éternelle bergère. D'ailleurs, j'ai allègrement puisé dans cet ouvrage pour nourrir nos chroniques des petites et grandes histoires de la basse marche. Je vais vous en parler d'une manière fort réductrice, bien sûr. Nous commençons l'histoire avec Anna, bergère en 1346, que nous découvrons tout en haut des Peux de Bramefan, dans la région de Nantia. On y verra aussi les laboureurs poussant leurs arrères de bois pour y cultiver le seigle. On y découvrira un passage particulièrement dramatique. Je cite Louis Peignot qui nous parle de cette épidémie qui n'apporte que des rôdeurs, des mendiants innombrables, tordus, loqueteux, crasseux, hirsutes, qui viennent mourir dans nos villages. Nous sommes en 1348 et ils meurent de la grande peste. Et comme à chaque période, nous vivrons dans la crainte des loups et même des loups-garous. Nous passons les siècles avec, je cite en vrac, l'élevage des moutons, la tonte des brebis, les processions à Saint-Martin, à Saint-Rémy, à Saint-Pardoux, les veillées d'hiver dans les hameaux et les bourgs, et encore et toujours avec la crainte des loups. Nous arrivons comme cela à la fin du XVIIIe siècle, nous vivrons la fameuse grande peur de juillet 1789, mais aussi les chansons des bergers et des bergères. Un peu partout à cette époque, on défriche, on assainit pour gagner des terres, des champs et des prés, et les paysages ruraux se transforment. Mais le pays reste très pauvre et les petits paysans de la région doivent s'expatrier pour devenir maçons ou paveurs à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Et n'oublions pas, à cette époque encore, on vit avec la peur des loups. Ensuite, nous découvrirons par le détail l'arrivée dans nos campagnes des colporteurs, des marchands ambulants, du rétameur, du tailleur, de l'épicier, du caïfa, du marchand de vin, du payaro, du boulanger, de la couturière à domicile, etc., etc. Et bien sûr, nous participerons aux foires où, particularité de nos campagnes bien pauvres, les paysannes viennent vendre leurs cheveux. Nous participerons à toutes les manifestations ou cérémonies qui marquent la vie ou l'année, la fête du cochon, la chandeleur, les mariages, etc. Et nous assisterons aussi à l'arrivée du chemin de fer. Vous le voyez, sans en avoir l'air, cet ouvrage, Bergère, éternelle bergère, est une exceptionnelle fresque de la vie dans nos campagnes, ici, surtout dans la zone de Nantia, Roussac, Rancon, de la fin du Moyen-Âge jusqu'en 1933. Une fresque rédigée avec une grande simplicité, mais qui va très loin dans les détails de la vie quotidienne.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Bergère, éternelle bergère, fut publié en 1952 et illustré avec des bois gravés de Miséré. En 1954, Louis Peignot publie Rose sans épines, un ouvrage consacré à Georges Sand et à ses relations avec la région de La Châtre, de son château de Nohant et de sa maison de Gargilès. Ce qui explique la valse de Frédéric Chopin que nous venons d'écouter. Puis, il va concentrer ses recherches et ses écrits sur notre zone du nord de la Haute-Vienne avec trois ouvrages. Bramefant-sur-Couze en 1964, Au pays des bruyères et des étangs en 1966 et Au relais de l'étang vert en 1972. Dans Bramefant-sur-Couze, un peu comme dans Bergère, éternelle bergère, Louis Peignot va nous entraîner dans le temps et dans l'espace par une grande promenade dans le passé de la région de Saint-Symphorien-sur-Couze ou Roussac. Quelques exemples en vrac. Les métiers de l'époque, celui du sabotier, du cabaretier, du meunier, du tisserand, mais encore les cultures du seigle ou du chanvre, les processions à la chapelle Saint-Martin de Genouillères. Un passage est consacré à la mise en place de l'école publique. Plusieurs passages sont consacrés aux déplacements, aux transports, avec par exemple l'ouverture de la route du Blanc à Limoges vers 1850, route qui traverse la forêt de Rancon, ou avec l'arrivée du tramway dont on sait que Rancon fut le principal centre. Comme dans tous ses ouvrages, Louis Peignot nous présente aussi de belles descriptions de la nature tout au cours des saisons. Écoutons ce qu'il écrit à propos de ce nom de Bramefant. Et Bramefant, qui a donné à ce vaste désert de landes, de taillis, de fougères et de genêts, cette étrange et lugubre appellation. Paysage à la fois beau et triste, les soirs de septembre au crépuscule, il se colore de rose, puis de mauve. Mais quand vient novembre, cette immensité vide d'humains retombe pour de longs mois dans la grisaille. Il n'est pas bon de s'y attarder quand on a l'âme portée à la mélancolie. Bramefant, au lieu de pauvreté et de tristesse, disaient nos parents, c'est le pays où l'on entend les nuits bramer de faim les bêtes et les gens. Explication ingénieuse mais trop facile, Bramefant ou Bramefond ne serait-il pas le pays des brandes marécageuses? Et de fait, toute la vallée au pied de notre Peu n'est plus qu'un vaste marécage envahi par les broussailles. Au pays des bruyères et des étangs va donc paraître en 1966. Dans cet ouvrage, Louis Peignot nous fait parcourir sa région des bruyères et des étangs. Nous irons de Bramefant-sur-Couze au moulin de Gorge-de-Loup, puis à Frodègue, chez le baron de Nantia, et au château d'Élèze de Montauran. Notre balade nous conduira au château de Touron, où nous rencontrerons quelques-uns des hôtes illustres de ce château, comme Adolphe Thiers ou le prince Georges d'Alexeïev. En passant par Tricherie et Pont-à-Brier, nous allons nous rendre à Comprignac. L'étang de Tricherie fut construit par les moines de Gramont et donc nous nous intéresserons à la vie de ces moines, les bons hommes de Gramont. De Comprignac, nous partirons vers Marignac, qui est un centre important d'extraction de l'uranium, et au site, on pourrait dire aux cimes de Beau Soleil, qui culmine à 589 mètres d'altitude. Nous irons ensuite à Gramont, à Saint-Sylvestre, puis ce sera le retour vers Saint-Pardoux. À Bessines, nous nous intéresserons à Suzanne Valadon, qui y naquit en septembre 1865. Thank you.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Puisqu'il s'agit du pays des étangs et des bruyères, voici un court passage de cet ouvrage « Quand la bruyère est fleurie ». Au sortir des châtaigneraies du vallon, voici les peaux tapissées de bruyères et d'ajoncs. La bruyère s'étale en nappes immenses, colorées de teintes qui nous laissent émerveillés. Est-ce l'heure et le jour de la découvrir ? Oui et non. Ne conviendrait-il pas de la voir plutôt en automne et par un jour pluvieux ? André Terrive le prétend, qui précise qu'alors ses couleurs sont avivées. Le ciel est gris, la terre est éblouissante. Un romantisme naïf et puissant monte de ces grandes perspectives violettes que des brouillards flottants semblent au loin essuyer. On comprend alors l'attrait que la solitude fleurie peut exercer sur une âme lasse de vivre parmi les hommes et pour eux. Mais nous sommes en août par une journée de grande lumière et c'est le plaisir de nos yeux que nous venons chercher. Plaisir de tous nos sens aussi. Toutes ces pentes fleuries bourdonnent au chaud soleil. Les abeilles s'activent de toutes parts autour de nous sans se soucier des pas qui foulent la bruyère. Les grillons font silence un instant. Asseyons-nous. Le chant des élytres va reprendre. L'odeur du miel monte de toutes ces corolles animées. Et tout de suite, c'est la tentation du bouquet. Mais laquelle cueillir de ces deux espèces de bruyères qui rivalisent de beauté ? Voici des touffes aux tiges hautes et légères où s'attachent de minuscules fleurs roses très fines, douces à la main. Voici les grappes de fleurs pareilles à des grelots rouges, plus rêches au toucher. Les premières sont plus élégantes, des aristocrates auprès de leurs voisines plus communes mais bien agréables aussi. De loin en loin, nous découvrirons encore une troisième espèce de bruyère, toute menue et d'un rose très tendre. Mais attention à la cueillette. La touffe s'accroche solidement à la terre. Engageons nos doigts prudemment. Les vipères abondent au pays des bruyères et des étangs. Vous aviez commencé par cueillir de ci, de là quelques brins et voici que la gerbe a grossi tellement que vos bras charmants ont de la peine à l'en serrer. Vos yeux non plus n'arrivent pas à se détacher de l'immense tapisserie rose qui s'étale sur ses pentes. Mais le soleil se fait plus ardent, les topinambours, les blés noirs, les maïs, les pommes de terre des cimes en sont accablés et attendent que le soir les ravive. L'ombre douce de la châtaigneraie et la fraîcheur de l'étang nous appellent. Il est midi, allons retrouver nos musettes suspendues à la branche du châtain du pauvre.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Louis Peignot publiera encore « La vie quotidienne de nos pères », son dernier ouvrage, en 1983. Et une dizaine d'années avant, en 1972, il avait publié « Au relais de l'étang vert ». Nous allons terminer avec cet ouvrage qui est à nouveau une invitation à nous promener dans l'histoire et dans les paysages du nord de la Haute-Vienne. « Amis de la ville », écrit-il dans la préface, « venez au relais de nos vallons. Vous ne les trouverez jamais tristes et solitaires. Mais de grâce, laissez chez vous vos boîtes à musique. Nos gentils petits hôtes en seraient effarouchés et offusqués. Ils ont tant d'instruments, autrement mélodieux, pour vous charmer. » En effet, dans « Au relais de l'étang vert », Louis Peignot va consacrer un chapitre entier aux oiseaux, à leur vie, à leur chant. Le merle, le rouge-gorge, le pivert, le coucou, le loriot, le rossignol, les tourneaux, le sansonnet et la mésange. Une grande partie de l'ouvrage sera consacrée aux anciennes chansons, pour divertir les gens, comme écrit l'auteur, des chansons de François Richard, qui fut curé de Roussac en 1758. Ses œuvres complètes furent publiées en 1824 sous le titre « Recueil de poésie patoise et française » de François Richard, prêtre. Il traduisit également les fables de La Fontaine en langue locale, mais aussi de Jean Robier, un poète et conteur limousin qui fut majoral du Félibrige, mais encore de Ligamio et de Jean Foucault. Pour les autres thèmes traités, on va retrouver ceux chers à Louis Peignot, les bons hommes de l'abbaye de Grammont, la chasse et la vie de la forêt, et encore et toujours, le loup hier, dans le nord de la Haute-Vienne. Louis Peignot avait la matière et les talents d'écrivain pour rédiger des romans ou des essais. Tenez par exemple, il aurait pu écrire sur la Révolution et la place des nobles émigrés, sur du roi de Chaumaret, le capitaine de la frégate La Méduse, sur les maçons migrants, sur le culte des fontaines, sur l'histoire de l'abbaye de Grammont, etc. Il a préféré rédiger des ouvrages qui sont des espèces de kaléidoscopes qui nous entraînent dans l'histoire du nord de la Haute-Vienne et qui nous promène dans tous les coins de la région de Nantia, de Roussac ou de Rancon. Et il a parfaitement réussi dans son rôle de passeur d'histoire et de culture. Je ne puis que conseiller très vivement à nos auditeurs de se plonger dans la lecture des ouvrages de Louis Peignot. Alors certes, à ma connaissance, ils n'ont pas été réédités. Il faudra d'ailleurs peut-être y songer un jour. Mais vous pouvez les trouver dans nos bibliothèques, dans nos médiathèques. Alors si vous profitiez de l'été et des vacances qui arrivent à grands pas pour lire Louis Peignot, une bonne proposition, non ? Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à Louis Peignot, un passeur d'histoire et de culture. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Daniel Perron et de Louis Peignot. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux chanteurs Yves Montand, Valérie Lagrange, au groupe Maluzerne, aux compositeurs Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi, Clément Jeannequin et Frédéric Chopin, dont nous écoutons en ce moment une valse. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la basse marche.